Boomerang avec Robert Guédigui en 68. C'est parti. Quelle est votre icône de 68? Question piège, s'il en est, puisque l'icône, c'est cette image figée dans le passé qu'on a tendance à vénérer. Dans la pile de magazines qui traînent dans la maison de mes parents, il y a ces vieux magazines cornés, jaunis, raidis par le temps. Celui auquel je pense ne date pas de 68, mais de deux décennies plus tard, ce qui fait déjà de sa couverture une icône. C'est une photographie que l'on doit au reporter Jean-Pierre Rey. Une image qui a fait le tour du monde, cette jeune femme au drapeau, vous savez, tête haute, bras tendus, assise sur les épaules de son ami, au-dessus de la foule en noir et blanc, la foule de travailleurs, syndicats ou étudiants, à Paris, place Edmond-Rostand. Sa posture fait écho, c'est vrai, à Delacroix et son fameux tableau « La liberté guidant le peuple », ce qui en faisait déjà à l'époque une icône, une figure ancrée, ne serait-ce que symboliquement dans le passé. Et figurez-vous qu'à chaque anniversaire décennal, on la ressort volontiers cette image, avec tel ou tel autre cadrage, image gigogne, image qui bégait, image d'un passé qui revient à jamais. C'est la Marianne de 68 qu'on risque fort de voir réapparaître ici et là, lors de ce 50e anniversaire, ressuscité d'un de ces vieux magazines cornés, jaunis, raidis par le temps.
Boomerang,
boomerang, mai 68.
Des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs.
Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez !
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quelle icône de 68 hante mon invité d'aujourd'hui, lui qui n'avait pas 15 ans, mais qui a été marqué par ces événements comme en témoigne son cinéma depuis dernier été, il y a 38 ans, jusqu'à la villa très récemment. Bonjour Robert Guédigian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Si à chaque révolution il faut une icône, quelle serait pour vous l'icône de mai 68?
Moi je crois Che Guevara, bien sûr, Ernesto Che Guevara, qui était décédé, hein, je veux dire, en 67. Mais depuis sa mort en 67, peut-être qu'il commençait à nous hanter, et qui s'est, grâce à ça, effectivement, je crois qu'il a fleuri dans tous les cortèges du monde entier, c'est devenu tout à fait international, et je vois que même encore aujourd'hui, beaucoup de gens, sans savoir probablement qui est ce type-là, l'ont sur leur t-shirt, encore aujourd'hui dans le monde entier. Alors l'image que j'ai, moi, c'est pas celle qui est sur les t-shirts, parce que j'ai évidemment été traumatisé par sa traque, que j'écoutais à la radio tous les jours, déjà en octobre, donc 67, et sa traque en Bolivie, et puis parce qu'il a été blessé, puis après il a été exécuté. Bon, aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a été exécuté par la CIA, bien sûr. Et il y a toutes les photos comme ça, où on montre bien qu'il est mort, où il y a en particulier celle qui me choque, il y a un militaire qui montre avec son doigt, presque il touche le corps du Che mort, pour dire c'est là que la balle qu'il a tué est entrée, quoi, voilà. Et c'est une image tout à fait traumatisante, et c'est cette image-là que j'avais cette image-là dans mon portefeuille carrément.
En 68
quand j'y pense aujourd'hui, ça me glace un peu d'effroi que j'ai eu cette image-là, mais enfin je l'avais peut-être parce que se mélanger à ce moment-là, et grâce à Che Guevara et grâce à la révolution cubaine quelques années auparavant, se mélanger aussi ce besoin que la jeunesse en général, et Dieu sait si 68 ça a quelque chose à voir avec la jeunesse, c'est-à-dire ce besoin d'excès, d'exaltation, d'excessif, et même ce côté où on n'a pas peur de la mort quand on est jeune, en
oui.
fait. Hein. On a beaucoup plus peur de la mort quand on est vieux, quoi, voilà. Moi, j'ai beaucoup plus peur de la mort aujourd'hui qu'effectivement à 14 ans.
Alors, ce qui est intéressant, Robert Guédigian, c'est que le charisme et la mythologie du Che que vous décrivez ici, ils font passer au second plan un certain nombre d'échecs. Dans quelle mesure est-ce que cette incarnation, comme toute icône, elle est un petit peu trompeuse aussi?
Alors, si vous voulez, d'abord, je me remémore, hein, donc, puisque ça me fait drôle d'ailleurs de devenir témoin de l'histoire, hein, je veux dire, bon, ça me donne tout ça, t'as des coups de vieux, mais bon, donc je me remémore ce que je pensais à ce moment-là. Évidemment, à ce moment-là, je pensais pas une seconde à ce qui s'est passé après. Et ce n'est pas parce qu'une révolution échoue qu'elle n'a pas eu raison d'être advenue. Ça, je crois que je ne suis pas le seul à le dire.
D'autant que ce qui compte, à vous entendre, c'est vraiment la figure fédératrice du Che, qui incarne un combat pour une cause commune, c'est ça?
Bien sûr.
Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, non? Des figures comme ça,
hein? Non, il y a moins de héros. Mais parce que les choses sont moins claires. C'est vrai que là aussi, le souvenir de 68, de ces moments-là, de ces années-là, c'est quand même un moment où les choses sont plus claires, enfin, sont plus définies. Donc les classes sont plus définies, les patrons sont plus définis, les ouvriers aussi, voilà. Il y a plus d'ouvriers d'ailleurs qui se voient dans leur tenue, dans leur costume, dans leur force physique même. Je veux dire, les ouvriers sont plus forts physiquement que ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'il y a moins de machines, tout simplement, à lever, à soulever. Ils sont concentrés dans des grandes unités de production, donc ils sortent en masse à 5 heures du soir, voilà. Bon, toutes ces images-là, ça apparaît entre des images du 19e siècle, maintenant, c'était pas le 19e siècle. Et les patrons, même en face, n'ont pas le même jeu, n'ont pas la même apparence, ils n'ont pas le même look. Les patrons ont plus l'air de patrons. D'ailleurs, ils ne parlent pas aux ouvriers. Il y a pas... Les sections syndicales d'entreprise, c'est une des conquêtes de 68. Ça n'existe pas auparavant. Donc, c'est un autre monde et c'est un monde plus clair.
En mai 68, Robert Guédiguian, vous avez presque 15 ans. Vous vivez à Marseille. Et vous dites que pour vous, 68, ça équivaut à une naissance.
Oui. Pour moi, j'ai un très beau souvenir. C'est-à-dire que c'est tout simplement, devant mon lycée, qui est à 500 mètres de la plus grosse fac à ce moment-là de Marseille, à côté de la gare Saint-Charles. Mon lycée était aussi à côté de la gare Saint-Charles, lycée Victor Hugo. Devant mon lycée, on arrive avec Gérard Mélan, mon meilleur ami, qui joue dans tous mes films, etc. Bon, pour entrer à l'école, au lycée, on était en troisième, donc. Et il y a des piquets de grève, des étudiants, qui hurlent, qui filent des tracts, qui empêchent d'entrer, qui y a des surveillants qui se mettent au milieu pour essayer de laisser entrer ceux qui voulaient entrer. Vous ne disiez pas que conseiller d'éducation. Le surveillant général qui s'en mêle aussi, évidemment, on ne pouvait pas l'encadrer. Et Gérard et moi sommes les deux premiers grévistes du lycée.
Voilà. Et vous avez compris tout de suite que ce serait une révolution?
Pas que ce serait une révolution, mais cette agitation autour du lycée, cet appel à la grève, on feuillette un peu le tract, auquel on ne comprend pas grand-chose, il faut bien le dire. Mais... et puis, non, il y a cette idée que... Là, ça par contre, c'est qu'on est des enfants du sérail. C'est-à-dire qu'on est tous les deux... On est pour les grèves, quoi qu'elle soit. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grève injuste, en fait. Je suis toujours pour les grèves. Je continue à avoir ce sentiment-là. Aujourd'hui, quand il y a une grève, je me dis que les grévistes ont raison. Mais là, aujourd'hui, demain, si vous me dites qu'il y a une grève, là, au bistrot à côté,
de la
maison de la radio, même à Radio France, je vous soutiens quand vous êtes en grève, la plupart du temps. Je soutiens toutes les grèves. Donc, je soutiens celle-là aussi. Et je vais, donc, à l'université, je vais dans une amphi où tout le monde crie, hurle, parle, etc. Je comprends peu de choses.
Vous êtes très jeune.
Oui. Et j'entends des noms, par contre. C'est pour ça que je dis une naissance. J'entends des noms. Et puisque tout le monde vivait de sa citation, et c'est vrai que j'entends Marx, Lénine, Trotsky, etc. J'avais vaguement entendu parler de ces gens-là, mais bon, pas autant que ça. Donc j'entends tous ces noms-là. Mais je sais que ma démarche, alors là, par contre, très studieuse, consiste, dès le lendemain, je vais dans une librairie où il y avait beaucoup de livres révolutionnaires, etc., tout ça, et je vais acheter, effectivement, toutes les petites œuvres de Marx, bilingues, là, aux éditions sociales, je vais acheter, en particulier, le manifeste du Parti communiste, les luttes de classe en France, et je me mets à lire comme une dingue, quoi. C'est pour ça que je dis, c'est une naissance, en fait. On m'a poussé dans 68, quoi. Voilà, je suis un préadolescent. 68 passe, c'est comme une mer, je me jette là-dedans, on me pousse plutôt, ou je me jette un peu les deux, je me laisse pousser volontiers à l'intérieur, et puis voilà, et je nage, donc tout commence pour moi là.
Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'on doit à mai 68? Quel en serait l'héritage pour vous, aujourd'hui?
J'allais dire, Lacan disait les mois de mai, c'est joli, la formule de Lacan, mais c'est peut-être les mois. C'est le geste, c'est les mois, c'est l'exaltation. Le geste demeure, quoi qu'il arrive. On pourrait attendre des références, c'est le devenir révolutionnaire au Rémy Deleuze. Ce qui compte, c'est pas qu'une révolution arrive. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, il y a des moments, en fait, où il n'y a pas d'autre issue qu'une révolution. Je veux dire, je trouve tous les discours aujourd'hui sont très, très étranges. On ne fait pas les comptes avec une révolution, ça fait partie de l'histoire ensuite, et évidemment que ça a amené des choses, des très belles choses. Ça reste un des moments forts, ce que j'appellerais, moi, un moment communiste, en fait.
Ça pose question. Oui. Mais c'est d'autant plus intéressant, Robert Guédiguian, que vous venez d'un milieu populaire ouvrier. On a parfois le sentiment que ce mouvement de 68, il avait d'abord quelque chose de bourgeois. C'est une interrogation qu'on a eue hier avec la femme de théâtre Ariane Nouchkine. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Alors moi, je ne pense pas. Il a été effectivement déclenché, on le sait tous, on va pas revenir là-dessus, par des revendications, la mixité, enfin, des choses comme ça, être extrêmement important du reste. Je veux pas dénier l'importance de ces choses-là, de ces revendications. Mais c'est vrai qu'il a été complètement, suivi très très tôt, au bout de quelques jours, sur une, quand même, c'est la plus grande grève ouvrière de l'histoire de France. C'est beaucoup plus fort que 36. Donc, je suis obligé de retenir ça. Et ce que je retiens, justement, alors, en tant que fils d'ouvrier, pour moi, la chose la plus troublante, en fait, en termes de souvenirs, de réminiscence, vraiment, de 68, c'est de voir, dans mon quartier, l'Estaque, donc le quartier où je suis né, quartier très ouvrier, tout, très ouvrier, de voir tous les ouvriers que je connaissais sur le terrain de boule dans la journée. Ce qui était mais impensable. C'est-à-dire le terrain de boule, tout blanc, enfin, sous le soleil très fort, comme toujours dans le midi. Mais les gens venaient en sortant du boulot, donc ils arrivaient à 6h30, 7h. Et là, ces types en bleu marine, tous encore en costard bleu de travail, parce que c'était encore comme ça à cette époque-là, les gens allaient au boulot en bleu de travail. Et ils rentraient, ils jouaient au boule le soir, on les regardait jouer en essayant d'apprendre, parce qu'ils étaient évidemment, ils étaient aussi plus forts que nous, puisque nous, on était des gamins. Bon. Mais là, les voir à 11h du matin sur le terrain de boule en train de jouer au boule, c'était... C'est une image folle, avec d'ailleurs leurs femmes qui passaient, qui faisaient des courses, l'espèce de vie du coup de la commune, de la communauté, cette vie du quartier, qui fonctionnait toute la journée.
Et vous ne vous souvenez pas de voix communistes qui s'élevaient contre la dimension bourgeoise de cette révolte ou cette révolution ?
Non, j'ai plutôt eu des choses ensuite. Puisque quand je dis que c'est ma naissance aussi, elle est passée par le Parti communiste. Moi, j'ai adhéré évidemment au Parti communiste.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
C'est-à-dire, je débarque donc de ce jour de grève, etc. Mais évidemment, dès 69, d'ailleurs avec Gérard, toujours, encore aujourd'hui. Bon, avec Gérard, nous créons le cercle de la jeunesse communiste dans le lycée, le cercle de la jeunesse communiste dans le quartier. Donc, on crée les deux. Et bon, on n'adhère pas directement au Parti communiste, mais en fait, c'était des organisations qui dépendaient du Parti communiste. Donc, on se met à militer à partir de septembre 69. Je suis dans le bain sans arrêt, quoi. Après, là, je deviens militant effectif et productif. Et donc, je vais là parce que pour moi, il n'y a pas de rupture entre les intellectuels. Et c'est une des belles choses de 68 aussi, quand il faut le dire. Et le monde ouvrier. Il y a des réunions dans les usines, il y a des mélanges de un peu partout. Je veux dire, on n'arrive pas exactement à chiffrer, mais il y a entre 7 et 9 millions de grévistes.
Oui.
Bon, ces 7 et 9 millions de grévistes, ils sont, c'est pas des bourgeois, ils ont fait grève, mais pendant des mois. Mon père faisait partie de la section de la métallurgie. Métallurgie a fait grève en juin encore, après les accords de Grenelle. Bon, donc tout ça, je peux pas dire que 68 n'ait été que mouvement de bourgeois qui revendiquait de faire l'amour dans les facs. Enfin, c'est mensonger de dire ça.
Vous avez choisi, Robert Guédiguian, de faire entendre aux auditeurs ce matin une voix, la voix du général de Gaulle, dans cette célèbre allocution aux Français, le 30 mai 68.
Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main, en conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
Alors ce qui est assez amusant, Robert Guédiguian, c'est qu'entre le Che et le général, vous faites le grand écart. Qu'est-ce qu'il incarnait à l'époque pour vous, le général de Gaulle ?
Le militaire. Évidemment, les militaires, l'ordre et l'ordre de la grande bourgeoisie, enfin, bien entendu. Donc c'était vraiment une opposition très forte. Je veux dire, pour moi, à ce moment-là, je pensais absolument pas au De Gaulle, de à Londres, le oui. Résistant, etc.
Donc, et qu'est-ce que vous ressentez ?
Vous voyez comment les choses étaient. Mais une espèce de fierté d'être aussi mal vu à la fois. C'est-à-dire le côté, tout ça, l'instigation de révolutionnaires, enfin, du Parti communiste, des rouges, des bolcheviques, avec le couteau entre les dents, enfin, toutes ces choses. Moi, j'ai 14 ans, j'ai pas le couteau entre les dents, j'étais pas bolchevique, enfin, j'étais assez content, au fond, qu'on parle aussi mal de moi, parce que je me disais que je faisais peur. Et je crois qu'effectivement, la haine de 68, même quand elle se manifeste aujourd'hui, au fond, vous savez ce que c'est la haine de 68? La haine de 68, c'est toujours une grève victorieuse, en fait. Et ce qui a fait peur, ce qui faisait peur à De Gaulle à ce moment-là, ce qui l'a déboussolé, je vous garantis que pour, à mon avis, c'est pas du tout quelques voitures dans le quartier latin. Enfin, il y avait pas mal de voitures, hein, ceci dit. Bon, c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est que le pays était bloqué pendant un mois. Enfin, c'est-à-dire une grève comme ça, la puissance d'une grève comme ça, ça, il y a de quoi faire trembler tout, n'importe quel pouvoir. En particulier celui-là. Donc ils ont eu très peur, et là, encore aujourd'hui, quand on n'aime pas 68, ce qu'on n'aime pas non plus, les 35% d'augmentation du SMIC à Grenelle. 35% d'augmentation du SMIC. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même quelque chose à faire aussi.
Vous la sentez encore aujourd'hui, cette joie, Robert, d'être ailleurs, d'être autre, d'être méprisé parfois, d'être différent?
Ben oui. J'hésite toujours à le dire, parce qu'il y a quelque chose d'un peu orgueilleux ou vaniteux, mais c'est vrai que je crois qu'être de gauche, c'est être minoritaire, en fait, voilà. Je crois que, donc j'aime bien être minoritaire, en fait. Ça me satisfait pleinement, quoi.
La dernière fois que vous avez vibré pour un homme politique, c'était quand?
C'est très difficile à dire au niveau où on est là. Parce que là, je dis au niveau où on est là, je dis au niveau de Che Guevara ou de personnages comme ça, c'est vrai que c'est quand même...
Ou de De Gaulle.
C'est quand même... ou de De Gaulle, oui. Quand que j'aime beaucoup d'autres discours de De Gaulle. Et son humour, parfois, et sa langue, évidemment. Mais non, il n'y a plus... Mais j'ai peut-être perdu ma capacité à vibrer autant, hein, je veux dire, disons-le aussi comme ça.
On parle de politique, on parle d'engagement depuis tout à l'heure, mais pour ainsi dire, pas assez de cinéma. En quoi est-ce que votre pratique et votre conception du cinéma, elles sont liées à l'engagement qui semble être né en 68, puisqu'on parlait de naissance?
Je crois qu'elle est... Ma pratique au cinéma, elle est très liée, j'allais dire, à essayer de construire quelque chose, de construire un public autour de ce que je fabrique, quoi. Voilà. C'est peut-être ça. C'est peut-être dans cette idée-là. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu faire des films, de manière d'ailleurs à la fois inconsciente et consciente, qui aillent vers le public. Enfin, je veux dire, avec, évidemment, en faisant très attention, en restant très exigeant, je pense que niveau élevé et accès public ne sont pas incompatibles. En tout cas, je pense qu'il y a des voies, où il y a des films d'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, qui tiennent ces deux bouts, qui sont des films d'une grande exigence, formelle évidemment, d'une grande exigence dans leur contenu, dans leur questionnement, etc. Et qui sont maintenant des films, mais regardables, mais par tous.
Est-ce qu'il y a aussi,
voilà mon effort,
quand même, la volonté, sinon d'entretenir, du moins de poursuivre un idéal révolutionnaire?
Oui,
dans votre cinéma?
Oui, incontestablement. Je pense qu'effectivement, il faut toujours, effectivement, trouver des causes, en fait, qui nous dépassent, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire trouver des choses qu'on a à faire ensemble qui sont plus importantes que nos propres vies. Voilà.
Et je vous pose la question aussi parce que dans votre dernier film, La Villa, pour lequel j'avais reçu à ce micro Ariane Ascaride, vous racontez l'histoire de personnages qui tous, à leur manière, incarnent des idéaux de gauche dont ils constatent la disparition. Ils sont tous nostalgiques, en fait, d'une époque révolue. Quelle époque, en fait?
Non, c'est pas... Il y a quelqu'un... Je le dis, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Maurice de Télérama qui a dit le film a la nostalgie de ce qui aurait pu être. Et c'est assez juste. Je lui ai envoyé un petit mot même en disant... Moi, je dis pas ça, mais je trouve que tu as raison. J'ai pas la nostalgie de ce qui a été. J'ai la nostalgie de ce qui aurait pu être. C'est vrai que après 68, ce qui s'est passé en 71, 72, le programme commun, cette espèce d'union de la gauche... qui a fonctionné pendant 10 ans jusqu'en 81, jusqu'à la fin du rêve de cette union en 83, quand Mitterrand a changé de cap, c'est quand même une quinzaine d'années où il aurait pu se passer quelque chose. C'est vrai qu'il, à partir de 83, ne s'est pas passé, et c'est même peu à peu délité, etc., jusqu'à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire 40 ans de néolibéralisme, bon voilà.
Je vous ai souvent entendu dire que la nostalgie avait quelque chose de révolutionnaire, Robert Guédiguian.
Oui, je pense ça aussi, par ailleurs. La nostalgie c'est souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une petite connotation péjorative. Mais d'abord, la nostalgie, je défie tout homme de me dire qu'il n'est pas nostalgique. Ça ne peut pas ne pas exister, ce n'est pas énorme si on n'est pas nostalgique. Évidemment qu'on pense forcément au temps qui passe. Là, je suis en train de me dire, tiens, dans une heure, je penserai avec nostalgie à notre entretien. Bon, voilà, c'est inévitable.
Moi aussi.
Mais du coup... J'ajouterais, moi, que la nostalgie de ce qui aurait pu être ou de ce qui a été est le moyen aussi de critiquer le présent.
Alors on va être nostalgique. tous les deux révolutionnaires. On va critiquer un peu le présent avec avec un titre de musique, 68, Revolution. On l'écoute, on en parle après.
Oui.
Ok. Vous êtes sur France Inter avec Robert Guédiguian, vous écoutez Boomerang. On est presque en 68.
Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be all right. All right. All right.
Boomerang sur France Inter.
Mai 68.
Augustin Trapenard.
L'ordre de grève a été maintenu par les quatre grandes centrales syndicales. Plusieurs centaines de milliers de personnes défileront de la place de la République à Denfert-Rochereau. En passant à l'hôtel de ville, elles apprendront la libération des quatre étudiants emprisonnés.
Alors c'est intéressant parce qu'on est effectivement quelque part entre le Che dont on parlait et Monsieur Seguin sans sa chèvre. Quoi qu'il ait la boucle plus souple ce matin, moins brune, mais non moins révolutionnaire, l'œil malin, un brin autoritaire et fougueux, un profil et une carrière tout à fait charismatique. Le genre d'homme a organisé comme ça, au débeauté, une petite traversée de la mer Rouge, a transformé en fin de soirée l'eau en vin lorsque les réserves sont épuisées. Le genre d'homme qui redonne un peu de croquant à des brocolis trop cuits, il est providentiel avec son petit veston et sa pochette rouge à pois blanc, Robert Guédiguian. Invité de Boomerang ce matin pour cette semaine consacrée à 68. Alors on le rappelait, Robert, il y a 50 ans, vous n'aviez pas 15 ans. Vous viviez dans le quartier de l'Estaque à Marseille. Alors ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il reste de l'adolescent que vous étiez. Et d'abord peut-être de ce territoire. Qu'est-ce que ce quartier représente pour vous dans votre cinéma, qui est indissociable d'un territoire ?
Il représente le territoire de ma mémoire déjà, mais il représente aussi un point dans lequel je peux mesurer en fait tout ce qui a changé. Puisque un lieu que l'on connaît très bien, c'est comme si j'avais cartographié un quartier, et j'y retourne, donc je vais voir, je dis tiens, dans cette rue, ce commerce a fermé, c'est devenu autre chose, s'ils vendaient des chaussures, maintenant c'était un snack.
Alors quelles images vous restent de l'époque ?
Je garde, comment ça, tout ça. L'image, c'est vrai qu'il me reste de l'époque, et qui a, c'est l'image en fait d'une foule immense réunie tout en permanence dans la rue, quoi. C'est-à-dire d'une espèce d'agora permanente et grouillante, quoi. Voilà. Les gens sont dans la rue toujours, font des courses, parlent, sont devant les terrasses des bistrots, c'est-à-dire c'était une grande démocratie, en fait, c'est ça qui me reste.
Et votre famille, elle ressemblait à quoi ?
Ma famille était très participée de ça, bien sûr, hein. Je veux dire, ma mère était femme de ménage, faisait des courses, etc., bien sûr, dans le quartier, des courses, des commissions, on disait des commissions. Et puis mon père, effectivement, était travaillé en réparation navale, et quand il ne sortait pas trop tard le soir, quand il n'y avait pas d'heures supplémentaires ou des choses comme ça, effectivement, il jouait aux boules, comme je disais tout à l'heure, sur ce fameux terrain de boule.
Et qu'est-ce qu'ils pensaient, vos parents, de vos velléités révolutionnaires, Robert Guédiguian ?
Ah ben, ils étaient très fiers. C'est ce que je voulais d'ailleurs ajouter. Souvent, on parle là aussi, mais tout le monde parle un petit peu à tort à travers. On dit, mais 68, conflit de génération. Bon, conflit de génération, je ne sais pas ce que c'est. Mes parents étaient extrêmement fiers qu'effectivement, je veuille monter sur des barricades à 14 ans.
Voilà, et y compris l'Agora dont vous parliez tout à l'heure, ils étaient fiers aussi.
Tout à fait. Mais c'était très heureux que. Ce n'est pas des militants d'ailleurs, c'est des gens qui ont toujours voté. Communistes, mais qui n'ont jamais, bon, puis un carter à la CGT, mais il n'a jamais milité vraiment, quoi.
Et qu'est-ce qu'il disait ?
Il soutenait sans militer. Il était très fier. Je veux dire, la première fois, j'ai pris la parole en public, il était ravi, quoi, sur la place, bien sûr. J'ai pris la parole, parce qu'on prenait la parole dans les rues. On montait sur le toit d'une voiture et on faisait un petit discours. C'était génial, ça, c'est exceptionnel.
Et qu'est-ce qu'il disait de vos aspirations artistiques ?
Ah, là, c'est plus tard, ça, mais là, il était très surpris. Qu'on dépense autant d'argent pour faire un film. C'est plutôt ça qui le choquait. Sinon, il était très, très, très heureux que je continue, en fait, à parler. Je pourrais dire que je continue à parler de lui à travers ce moyen-là.
Mais quelle place avait la culture, les livres, les arts, le cinéma dans votre famille ?
Quasiment aucun. Okay. Par contre, effectivement, là aussi, quand je disais naissance tout à l'heure pour mai 68, à partir de là, j'allais dire, tous les mots qu'on entend dans une manifestation, quand la parole est libre, quand tout le monde se met à parler, les mots qu'on entend, c'est aussi des poèmes, c'est aussi des mots, des noms de cinéastes, c'est des citations. Et quand on cite, on ne cite pas que des auteurs théoriques, on ne cite pas que des intellectuels. Et à partir de là, s'ouvre quelque chose, des noms, j'entends des noms et je vais chercher à connaître tous ces noms-là, quoi.
Ce qui me frappe dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce mot fierté qui revient souvent dans votre vocabulaire, Robert Guédiguian. Comment est-ce que vous le définiriez, ce sentiment de fierté ?
Non, c'est aussi fierté, c'est fierté, amour propre, c'est veiller toujours à peut-être que. Le bonheur consiste à faire attention, à toujours être content de soi, quoi, à se dire qu'on a toujours été du côté du bien, quoi, du juste. Enfin, en tout cas, qu'on a fait le plus qu'on a pu pour être de ce côté-là.
C'est ça qui vous rend fier aujourd'hui ?
Mais tout à fait.
Parce que moi, ce qui me rendrait fier, effectivement, c'est la constance et la fidélité dont témoigne votre cinéma. Ce sont pour moi les plus belles valeurs et les idées. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les acteurs aussi, la conception du cinéma est restée la même chez vous depuis presque 40 ans. Vous n'êtes pas beaucoup à être restés les mêmes.
Non, c'est vrai.
J'aimerais qu'on termine cette émission par une lecture. Robert, un court texte de René Char que vous avez choisi qui s'appelle « Pauvreté et privilège ». Faut peut-être nous expliquer.
Oui, vous savez que René Char était un grand résistant en fait. Il s'appelait le colonel Alexandre pendant la résistance. Il avait même donc des fonctions de chef, de gradé. Et il écrit après, effectivement, à ses amis. Quelques temps plus tard, c'est dans « Recherche de la base au sommet », qui est un recueil qui contient plusieurs sous-titres. L'un d'eux s'intitule « Pauvreté et privilège ». Et il dit « Pauvreté et privilège est dédié à tous les désenchantés silencieux, mais qui, à cause de quelques revers, ne sont pas devenus pour autant inactifs. Ils sont le pont, ferme devant la meute rageuse des tricheurs, au-dessus du vide et proche de la terre commune. Ils voient le dernier et signalent le premier rayon. Quelque chose qui régna, fléchit, disparut, réapparaissant, devrait servir la vie, notre vie des moissons et des déserts, et ce qui la montre le mieux en son avoir illimité. On ne peut pas devenir fou dans une époque forcenée, bien qu'on puisse être brûlé vif par un feu dont on est légal. C'est te dire que si certains prodiges ont cessé de compter pour moi, je n'en défends pas moins de toute mon énergie le droit de s'affirmer prodigieux, je ne serai jamais assez loin, assez perdu dans mon indépendance ou que son illusion, pour avoir le cœur de ne plus aimer les forces têtes désobéissantes qui descendent au fond du cratère sans se soucier des appels du bord. Ma part la plus active est devenue l'absence, je ne suis plus guère en présent que par l'amour, l'insoumission et le grand toit de la mémoire.
Merci infiniment, Robert Guédiguian, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci pour ces mots de René Char aussi. Je rappelle que La Villa, votre très beau film avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan, Anaïs de Moustier aussi, est disponible en DVD, en VOD, peut-être même dans certaines salles de cinéma encore. 68, ça continue sur notre antenne toute la semaine. Vous retrouverez demain l'écrivain Patrick Rambaud, qui en a fait un roman. En attendant, c'est Sonia De Villard et son Instant M qu'on retrouve juste après ça.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons. pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je t'assurerai ta moue et un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête, sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Je me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander, car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser, t'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquerai la nuque sans que tu révulses, et je serai doux pute. Je serai fou.
Quartier des Lunes, le tout nouveau titre d'Eddy de Préto sur France Inter.